Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Énergie et équité » est un essai bref de Ivan Illich, publié au début des années 1970 dans le contexte de la crise énergétique, puis régulièrement réédité. Il ne propose pas une étude technique des carburants ni un programme de planification industrielle. Son objet est plus radical examiner comment le niveau de consommation énergétique façonne les rapports sociaux, les libertés concrètes et les inégalités. Illich prend principalement les transports motorisés comme terrain de démonstration. Il soutient que, au-delà de certains seuils, la puissance et la vitesse cessent de servir la mobilité de tous elles, organisent une dépendance envers des systèmes coûteux, centralisés et sélectifs. La promesse de gagner du temps masque alors des coûts sociaux, spatiaux et temporels considérables. L'essai articule ainsi critique de la croissance, réflexion sur les techniques et défense de formes de mobilité accessibles. Sa question directrice demeure particulièrement nette : quelle quantité d'énergie une société peut-elle employer sans détruire les conditions de son équité et de son autonomie ? Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le seuil énergétique comme condition de justice sociale. La proposition centrale de Illich est que la relation entre énergie et bien-être ne croît pas indéfiniment. Une énergie plus abondante peut d'abord élargir les possibilités de déplacement, de production ou de communication. Mais, une fois un certain seuil franchi, elle tend à produire des institutions, des infrastructures et des hiérarchies qui réduisent les capacités ordinaires des personnes. Le problème ne relève donc pas seulement de la rareté des ressources ou de la pollution. Il concerne la distribution du pouvoir que permet une forte intensité énergétique. Des dispositifs très puissants exigent des capitaux, des réseaux spécialisés, des experts et des règles de contrôle. Leur accès devient inégal, tandis que chacun doit adapter ses besoins à leur fonctionnement. Illich refuse ainsi le choix apparemment évident entre pénurie et abondance. Il défend la recherche de limites collectives à la consommation énergétique par habitant, afin de préserver une marge d'action partagée. Cette thèse inverse une intuition productiviste davantage de puissance disponible ne garantit ni davantage de liberté, ni une société plus juste. L'équité dépend aussi de la possibilité pour le plus grand nombre de se mouvoir et d'agir sans devoir acheter un accès à des systèmes lourds. La limite apparaît alors comme une condition politique de l'autonomie, non comme une simple privation. Deuxièmement, la vitesse automobile est le transfert caché de temps de vie. Les transports motorisés constituent le principal exemple empirique de Illich. La voiture promet de raccourcir les trajets grâce à une vitesse élevée. Pourtant, cette vitesse modifie simultanément la forme des villes, la localisation des emplois, les distances quotidiennes et les budgets des ménages. Quand les destinations deviennent plus éloignées, le temps théoriquement gagné par l'accélération est absorbé par des parcours plus longs. Il faut aussi compter le temps indirect consacré à financer, entretenir, assurer et gérer un véhicule, ainsi que les temps collectifs liés aux embouteillages et aux infrastructures. Illich invite donc à distinguer la vitesse technique affichée par un moteur de la vitesse sociale réellement obtenue par une population. Cette distinction déplace le débat, il ne suffit pas de comparer des kilomètres par heure. Il faut examiner le temps total que l'organisation automobile prélève sur la vie. Les personnes aux revenus modestes subissent plus fortement cette contrainte, car le coût du déplacement pèse davantage sur leur travail et leurs loisirs. La critique ne vise pas seulement un objet individuel, mais une organisation territoriale qui rend cet objet presque indispensable. Sous cet angle, une mobilité moins rapide mais autonome, proche et peu coûteuse, peut offrir une capacité effective de déplacement supérieure à celle d'une société dépendante de véhicules rapides. Troisièmement, le monopole radical transforme un outil en obligation sociale. Le concept de monopole radical désigne une situation dans laquelle une technique dominante ne se contente pas de concurrencer les autres moyens disponibles. Elle réorganise le milieu de telle sorte que les alternatives deviennent impraticables, dangereuses ou marginales. Dans le cas des transports, la généralisation de la voiture et des voies rapides peut rendre la marche, le vélo et les transports de proximité moins sûrs ou moins efficaces. La liberté apparente de conduire se double alors de la perte de la liberté de ne pas conduire. Cette idée distingue Illich des critiques qui opposeraient simplement une bonne technologie à une mauvaise technologie. Une automobile peut être utile dans des circonstances précises. Le problème surgit lorsque son usage massif définit la voirie, les horaires, l'urbanisation et les critères de normalité sociale. Le système impose alors ses coûts à ceux qui ne le choisissent pas, notamment aux enfants, aux personnes âgées, aux habitants sans véhicule et aux piétons. Le monopole est radical parce qu'il porte sur la capacité même de satisfaire un besoin élémentaire, ici se déplacer. Illich met ainsi en évidence une forme de dépossession. Un service industriel peut supprimer les compétences et les possibilités qu'il prétend améliorer. Son analyse fournit un critère exigeant pour évaluer une innovation élargie, elle réellement les choix de tous, ou rend-elle obligatoire la dépendance à son propre réseau. Quatrièmement, la contre-productivité des services industriels au-delà de leur seuil utile. Énergie et équité appartient à une critique plus large des institutions industrielles développées par Illich. Il y examine le moment où une production de services devient contre-productive, elle compromet le but même qu'elle annonçait servir. Dans les transports, la multiplication des moyens motorisés ne produit pas nécessairement une mobilité plus accessible. Elle peut engendrer congestion, séparation des espaces de vie, dépenses contraintes et exclusion de ceux qui ne disposent pas des équipements requis. Il ne faut pas confondre cette critique avec un rejet de toute organisation collective ou de toute technique moderne. Illich raisonne en termes de seuil avant un certain niveau, un outil peut soutenir les facultés humaines. Après ce niveau, son expansion exige une administration croissante et détruit les usages autonomes. La notion permet aussi de comprendre pourquoi la seule efficacité énergétique ne résout pas le problème. Un véhicule plus sobre peut réduire une dépense par kilomètre, mais si cette amélioration encourage des déplacements plus nombreux, des distances plus grandes ou une extension continue des infrastructures, la dépendance structurelle demeure. La question pertinente devient donc celle de la finalité sociale du système et non de sa seule performance mesurable. Cette attention aux effets indirects donne à l'essai sa portée critique. Il relie les choix techniques aux formes de vie qu'ils rendent possibles ou impossibles. En dernier lieu, la sobriété conviviale comme alternative à la puissance sans limite, face à la croissance énergétique et à la fascination pour la performance, Illich esquisse une et troisième voie. Il ne plaide ni pour une privation imposée aux plus pauvres, ni pour une amélioration technique censée rendre soutenable une consommation toujours croissante. Il défend une sobriété organisée autour de limites équitables et de techniques conviviales. Un outil convivial est suffisamment efficace pour étendre le rayon d'action d'une personne, mais assez simple et accessible pour ne pas la placer sous la tutelle permanente de spécialistes, de marchés ou de grandes bureaucraties. Dans le domaine de la mobilité, la bicyclette représente pour Illich un exemple particulièrement parlant. Elle accroît fortement la capacité de déplacement humain sans exiger le même niveau de consommation énergétique, de contrôle spatial et de capital que la voiture généralisée. Cette préférence ne constitue pas une nostalgie de la faiblesse technique, elle découle du souci de préserver une puissance distribuée, compatible avec la marche, les déplacements autonomes et des villes à échelle humaine. L'essai laisse volontairement ouverte la définition précise des seuils applicables à chaque société. Sa contribution consiste moins à fournir un plan de transition détaillé qu'à formuler un principe de jugement, une technique mérite d'être développée lorsque son usage commun renforce simultanément autonomie, égalité d'accès et maîtrise collective des limites. En conclusion, énergie et équité intéressera en premier lieu les lecteurs de écologie politique, de sociologie des techniques, de pensée urbaine et de critique de la croissance. Il sera également utile aux urbanistes, aux responsables publics et aux citoyens qui cherchent à évaluer les politiques de transport autrement que par la vitesse, le volume des flux ou la seule réduction des émissions. Sa lecture apporte un outil intellectuel particulièrement fécond, elle oblige à inclure le temps de vie, les inégalités d'accès, la forme des territoires et la dépendance institutionnelle dans le bilan réel de la mobilité. Le livre ne fournit pas un catalogue de mesures ni une modélisation complète des systèmes énergétiques contemporains. Cette limite peut frustrer les lecteurs en quête de solutions opérationnelles immédiates. Elle fait aussi sa force, Illich formule une grille de lecture concise, susceptible de questionner des politiques très diverses, depuis les infrastructures routières jusqu'aux promesses de véhicules plus efficaces par rapport à de nombreux essais écologiques centrés sur la conservation des ressources ou sur les dégâts environnementaux. Il place au premier plan la liberté concrète et la justice sociale. Son originalité réside dans ce lien rigoureux entre plafond énergétique, autonomie personnelle et égalité. En montrant que la puissance technique peut devenir contre-productive, il dépasse une opposition simple entre progrès et refus du progrès. Il invite à concevoir des techniques dont la diffusion ne retire pas aux individus la capacité de vivre, de circuler et de décider par eux-mêmes. Si vous souhaitez soutenir Ivan Illich, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.